tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, Côte d'Ivoire, l'écho accusé de Simone Gbagbo comparaissent à la cour d'assises d'Abidjan.
Lutte contre Ebola, une compagnie américaine débute les premiers essais sur des humains d'un vaccin contre la maladie.
La Tunisie a un nouveau Premier ministre, que faut-il attendre de Habib Essid, un ancien fonctionnaire de Ben Ali?
Juste à côté qui est enflammé, ces problèmes de pauvreté, de chômage qui ont été à l'origine de la révolution.
Mourad Selami, du journal Le Quotidien à Tunis.
États-Unis, une rentrée parlementaire sur fond de tension entre conservateurs républicains et l'administration Obama.
Et nous aurons comme d'habitude notre page économie, les sports et la musique, mais d'abord le journal.
Au Burundi, trois militants du parti au pouvoir ont été abattus dans l'est du pays, marqué par une longue guerre civile. Cette spirale de la violence s'installe à 5 mois des élections générales.
Ne manquez pas notre magazine sur la dégradation du climat sécuritaire au Burundi en seconde partie d'émission. En Côte d'Ivoire, les co-accusés de Simone Gbagbo ont commencé à défiler ce mardi à la barre de la cour d'assises d'Abidjan. L'ex-première dame n'était pas présente à l'audience. Georges Léonard Sagnot.
Après une semaine d'interruption, le procès débuté le 26 décembre est rentré dans le vif du sujet avec l'audition de 6 co-accusés présentés comme des miliciens pro-Gbagbo. Les 6 hommes sont arrivés menottés dans la salle d'audience, placés sous haute sécurité. Le premier d'entre eux à comparaître à la barre a nié toute responsabilité dans les violences post-électorales de 2010-2011. Simone Gbagbo est jugée en compagnie de 82 dignitaires de l'ancien régime, dont les premiers ministres Pascal Affi-Nguesson et Marie-Gilbert Aké-Nguibo, pour son rôle présumé dans la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 qui a fait plus de 3000 morts. Selon plusieurs observateurs, la bonne tenue de ce procès est un test pour le gouvernement ivoirien qui assure que la Côte d'Ivoire est capable de rendre un jugement équitable alors que la Cour pénale internationale continue de réclamer le transfèrement de Simone Ehive Gbagbo à La Haye.
Un témoin clé de la défense au procès du vice-président kényan William Ruto a été retrouvé mort. L'homme d'affaires a été retrouvé dans une rivière à 300 km de la capitale du Kenya, Nairobi. William Ruto est poursuivi par la Cour pénale internationale pour les violences post-électorales de 2007-2008.
Le président en exercice de l'Union africaine estime que l'épidémie d'Ebola est un défi qui va pousser les États de l'Afrique de l'Ouest à s'unir davantage. Le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'exprimait lundi soir depuis Monrovia, où il était en visite. Sur le front de la recherche, le géant américain Johnson & Johnson annonce le début des premiers essais sur l'homme de son potentiel vaccin contre la fièvre hémorragique. On fait le point avec Nicolas Pinault.
Oui, les premiers volontaires ont reçu leur dose initiale. C'est ce qu'indique Johnson & Johnson dans un communiqué. Ces études de phase 1 sont menées au sein de l'université britannique d'Oxford. La phase 1 est la première des 3 phases que doit franchir un vaccin avant d'être autorisé puis commercialisé. Le groupe américain avait annoncé fin octobre avoir dégagé jusqu'à 200 millions de dollars pour accélérer la production d'un vaccin. Mais Johnson & Johnson n'entend pas en rester là et compte aller plus vite puisqu'il espère engager des études sur un grand nombre de patients dès le mois d'avril. Il a déjà produit plus de 400 000 doses de vaccins et compte en fabriquer au total 2 millions d'ici la fin 2015. Si nécessaire, Johnson & Johnson se dit en mesure de porter sa production jusqu'à 5 millions de doses dans un délai de 12 à 18 mois. Je vous rappelle que l'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 8 100 morts en Afrique de l'Ouest.
Conséquence de l'attaque du palais présidentiel gambien le 30 décembre, le président Yahya Jammeh promet de se débarrasser des meneurs jusqu'au dernier, affirmant avoir été clément lors de précédentes tentatives de coup d'État en 2006 et 2009. Yahya Jammeh indique qu'il ne laissera plus des putschistes condamnés à mort saisir la Cour suprême.
Au Caire, la capitale égyptienne, un des mineurs de la police a été tué au Caire. D'après l'agence France-Presse, citant les autorités, il tentait de désamorcer une bombe devant une station-service non loin d'un poste de police. Le groupe djihadiste en Ajnab Misr, qui a déjà revendiqué de nombreuses attaques visant la police au Caire, revendique l'attentat.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, violence en Irak où 23 personnes ont été tuées dans deux attentats suicides et des affrontements avec les militants de l'État islamique dans la province d'Al-Anbar. Les précisions de Michel Joseph.
Les deux attentats visaient une mosquée de la localité d'Al-Djouba, abritant des combattants anti-djihadistes, et ont fait 10 morts. Selon l'AFP, des affrontements ont ensuite éclaté, faisant 13 morts et 21 blessés dans les rangs des forces de sécurité irakiennes qui se sont alors retirées de la localité. Ces violences ont eu lieu près de la ville de Baghdadi. Celle-ci abrite la base aérienne d'Al-Assad, où des conseillers militaires américains sont déployés. La base sert notamment de centre d'entraînement des combattants tribaux qui prennent part à la lutte contre l'État islamique. Lors d'une rencontre hier avec le nouveau gouverneur d'Al-Anbar, le premier ministre irakien Haïdar Al-Abadi a appelé les tribus locales à se soulever contre ce groupe djihadiste. Une révolution tribale est nécessaire pour débarrasser la société irakienne de cet ennemi, a fait savoir le bureau du premier ministre irakien cité par l'AFP.
En Israël, un tribunal militaire a condamné Oussam Hassan Kawassame, un militant du Hamas, à 3 peines de prison à vie pour le meurtre de 3 adolescents israéliens. Le condamné devra aussi verser des dommages et intérêts de 63 000 dollars à chacune des 3 familles. 2 de ses complices avaient été abattus par des soldats israéliens lors de l'enlèvement des adolescents près d'Hébron en septembre dernier.
Un attentat suicide mené par une femme à Istanbul a fait au moins un mort et 2 blessés ce mardi, indiquent les autorités turques. L'explosion a eu lieu dans un poste de police, dans un quartier très fréquenté par les touristes. La kamikaze est morte dans cet attentat qui n'a pas été immédiatement revendiqué.
La recherche des passagers du vol 8501 d'Air Asia se poursuit dans des conditions météorologiques difficiles, mais 2 autres corps ont été repêchés ce mardi. Au 10e jour de l'opération au large de la côte de Bornéo, 39 corps ont été retrouvés. L'avion s'est abîmé en mer le 28 décembre avec 162 personnes à bord.
Alexei Navalny défie les autorités russes qui l'ont placé en résidence surveillée suite à un procès pour escroquerie. L'opposant russe condamné à 3 ans et 6 mois de prison avec sursis a sectionné son bracelet électronique, disant que sa détention est illégale puisqu'il a bénéficié d'un sursis. Dans le même procès, rappelons-le, un frère d'Alexei Navalny, Oleg, a écopé de 3 ans et demi de prison ferme.
C'est la rentrée parlementaire ce mardi ici aux États-Unis où les républicains contrôlent désormais les 2 chambres du Congrès. Au sein du Grand Old Party, les éléments conservateurs sont déterminés à défaire certaines mesures adoptées par le président Barack Obama. Par exemple, la loi sur l'assurance santé, communément appelée Obamacare.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
Et nous retrouvons la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Pour vous servir aujourd'hui, Félix Yepassi-Zembrou. Bonsoir Félix.
Bonsoir Gabi, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Marche annoncée des travailleurs du Bénin pour dénoncer la mauvaise gestion au sommet de l'État et exiger l'amélioration des conditions de vie des travailleurs.
Oui, Morgan, réunie au sein du Forum des travailleurs, les forces vives du Bénin fustigent la mauvaise gouvernance au sommet de l'État. Ils ont donc décidé de se faire entendre à travers une marche pacifique demain, mercredi 7 janvier 2015. Les travailleurs comptent occuper la rue en suivant l'itinéraire de la Bourse du Travail à la place de l'Étoile Rouge, en passant par les carrefours Saint-Michel et Legba.
Le Cameroun va émettre à partir de demain des bons du Trésor d'une valeur de 5 milliards de francs CFA sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale.
Le Cameroun lui ouvrira ainsi la première séance d'adjudication de l'année. D'une durée de maturité de 52 semaines, les soumissionnaires sont invités à s'adresser aux 13 banques de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Trésor public camerounais ambitionne de mobiliser 45 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la BAC, à raison de 15 milliards de francs CFA par mois, selon le calendrier indicatif des émissions de titres publics rendus publics par le ministère des Finances.
Enfin, Algérie, manifestation dans le Sahara contre l'exploitation du gaz de schiste.
Oui, Morgane, le ministre de l'Énergie, Youssef Youssfi, a annoncé le 27 décembre que l'Algérie venait d'effectuer avec succès son premier forage pilote de gaz de schiste dans le bassin d'Atnet à In Salah, le qualifiant de très prometteur. Depuis, plusieurs manifestations contre l'exploitation de cette énergie ont eu lieu dans des provinces sahariennes où se trouvent les gisements en hydrocarbures. Selon la presse, les jeunes en colère dénoncent une atteinte à l'environnement.
Voilà pour la Minute Éco avec Félix Yepassi Zembrou. Et c'est parti pour les sports. Nous en parlions hier. Eh bien, la Guinée équatoriale a enfin un nouveau sélectionneur.
Oui, Morgane, l'entraîneur argentin Esteban Becker a été nommé à 11 jours de l'entrée en lice d'une Zalang à domicile pour sa CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Nicolas Pinault, qu'est-ce que l'on sait exactement de ce nouvel entraîneur de la Guinée équatoriale?
Il était champion d'Afrique en 2012, à la tête de l'équipe équato-guinéenne féminine. Évidemment, il prend la succession de l'Espagnol Andoni Goicoechea, qui a été évidemment licencié, c'était le 31 décembre.
Et parlons de notre mouvement sur un banc de touche en Afrique.
Passé par la SEC Abidjan, le Coton Sport de Garoua et l'Espérance de Tunis, le Français Sébastien Desarbres s'est engagé pour une saison en faveur du Recreativo Libolo, champion d'Angola. Libolo m'a contacté et ce qui m'intéressait, c'était de rejouer en Ligue des Champions. C'est ce qu'a déclaré le Français à nos confrères de France Football.
Un adversaire pour empêcher la réélection de Sepp Blatter à la tête de la FIFA, c'est qui?
Oui, le prince jordanien Ali bin Al-Hussein a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA. Âgé de 39 ans, le prince Ali, vice-président de la FIFA pour l'Asie et membre du comité exécutif de la Confédération Asiatique de Football, espère selon lui redorer le blason de l'instance du football mondial, éclaboussé évidemment par différents scandales de corruption.
Notamment l'allocation des Coupes du Monde de 2018 et 2022 au Qatar et à la Russie. Ça a fait pas mal de bruit, Nicolas Pinault.
Ouais, on se souvient du rapport Garcia, notamment, qui était cet ancien procureur de l'État de New York qui avait fait un rapport sur l'éthique. On se souvient que la FIFA avait justement empêché un temps la publication de ce rapport et puis finalement, rétro-pédalage, la FIFA avait décidé d'autoriser la publication du rapport, mais dans un contenu limité. Et évidemment, ça a provoqué la démission de Garcia. C'est vrai que, notamment, Joseph Blatter qui pourrait, s'il remporte l'élection, finalement gagner un cinquième mandat. Il est à la tête de l'instance depuis 1998. C'est vrai que finalement, beaucoup appellent au changement, mais c'est très compliqué, c'est très politique dans cette instance mondiale, donc on verra bien finalement qui aura lieu. L'élection qui est prévue au printemps.
Oui, avec ou sans Blatter, il faudra quand même que des changements interviennent au sein de la Fédération internationale de football association. La NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, l'Allemand Dirk Nowitzki est devenu la nuit dernière le 7e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en permettant à son équipe de Dallas de s'imposer en prolongation à Brooklyn 96-88. Memphis, de son côté, s'est facilement imposé 105-83 contre New York. Définitivement, ça va très mal pour les Knicks. 12e défaite d'affilée avec notamment l'absence de Carmelo Anthony. Cleveland, privé de son autre joueur vedette, LeBron James, toujours blessé, est tombé à Philadelphie 95-92.
Et c'est la 6e défaite en 8 matchs pour Cleveland sans LeBron James.
Oui, on voit bien qu'il y a un LeBron factor, comme ils disent les Américains. C'est vrai qu'il y a une LeBron James dépendance pour les joueurs de Cleveland. On va parler de la conférence Ouest. En Californie, Golden State a poursuivi sa domination dans la conférence avec cette nette victoire sur Oklahoma 117-91. À l'Est aussi, le leader a confirmé sa domination. Atlanta s'est imposé sur le parquet des LA Clippers 107-98. Enfin, Chicago a battu Houston 114-105.
Et bravo Washington Wizards face à la Nouvelle-Orléans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec du studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington pour cette édition du 6 janvier 2015. Place au dossier du jour.
Cap sur la République démocratique du Congo. L'ONU met en garde les rebelles FDLR. Des opérations militaires pour désarmer les forces démocratiques pour la libération du Rwanda vont débuter incessamment au nord Kivu et au sud Kivu. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigua.
Ces opérations viseront maintenant à désarmer les FDLR parce que l'ultimatum de reddition volontaire a expiré le 2 janvier dernier à minuit. Le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, chargé des opérations dans l'est de la RDC, est catégorique.
Notre position est claire. Nous allons nous engager contre les FDLR. Pas de déclaration d'intention, pas de diversion. Où ils désarment, le message pour eux est valable. Voilà la position de la commission.
Malheureusement, le président intérimaire des FDLR actifs en RDC, le général-major Victor Biringiro, continuait à tergiverser même à la date de l'expiration de l'ultimatum de reddition volontaire de ses combattants Hutu rwandais. Il s'est confié récemment au journaliste Arusa Mambo dans les territoires de Walikale.
La date du 2 janvier 2015 existe. Mais pour ce qui va se passer à cette date, c'est la communauté internationale qui le sait et c'est Dieu qui le sait. Si on nous attaque, je ne crois pas que ça se fera.
Ces opérations militaires inquiètent quelques habitants de Walikale, Masisi et Rutshuru qui vivent dans les espaces sous contrôle des FDLR. Le chef de la localité de Lushoa, dans le groupement de Kisimba à Walikale, a été joint au téléphone.
Nous avons un problème. En suivant la radio, nous avons entendu que les combattants FDLR seront traqués de partout où ils se cachent. Alors, ce lundi, les classes vont réouvrir. Comment vont étudier nos enfants pendant cette traque? Ce qui peut nous aider, nous, en tant qu'habitants du secteur de Wanyanga, groupement Kisimba, localité Lushoa, c'est d'explorer la possibilité d'un dialogue inter-rwandais. Ça peut beaucoup nous aider parce que depuis que nous fouillons d'un village à l'autre suite à la guerre, beaucoup d'enfants n'ont pas étudié. Maintenant, nous nous sommes réinstallés, nous avons des cultures dans les champs et de l'élevage en pleine reconstitution. Nous ne saurons pas fuir une nouvelle guerre avec tout ça.
Selon le général Abdallah Wafi, la MONUSCO et les FARDC ont déjà pris des dispositions pour que la traque des FDLR se fasse dans le respect des règles et du droit humanitaire. Depuis Goma, Primo Pascal Rudaigua, La Voix de l'Amérique.
Et on reste en RDC pour parler de la réaction de 850 agents de la société minière du Katanga GK Mine qui ont reçu un avis de retraite. Ils sont âgés de 60 à 65 ans, mais rejettent cette décision qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2015. On fait le point avec notre correspondant Narval Mabila.
Ils sont 850 agents de la Générale des Carrières et des Mines âgés de 60 à 65 ans qui ont été notifiés pour aller à la retraite sur les 10 000 agents contractuels, explication du président de l'intersyndicale Kasongo Mabusha.
Dans un premier temps, c'est 850 qui nous a été communiqué par l'employeur dont les conditions ont été négociées avec les syndicats. Une première fois pour la GK Mine, même ceux qui partiront à l'avenir partiront aussi dans les mêmes conditions que ceux qui partent maintenant. La GK Mine n'a jamais connu ça. Un agent qui part en retraite, avant d'être payé, il a un salaire d'attente.
Malgré les explications de cette décision, les agents concernés ne sont pas rassurés. Monsieur Mouderoua, qui part à la retraite.
Oui, avec ce que la GK Mine a fait voir à ceux qui sont partis. Elle n'est pas fiable, ils sont là. Ils sont en train de courir pour avoir leur argent. Parce qu'ils ne l'auront jamais.
Vous êtes en train de soutenir l'insoutenable. Et tout le monde sait que tous ceux qui soutiennent l'insoutenable,
c'est
tout le monde sait
c'est
ce qu'ils ont déjà eu, ce qu'ils n'ont pas eu. Ou quoi. Bon.
Maintenant, les gens vont commencer à marcher. Hey, qu'est-ce qu'on a dit? Hey, c'est sûr, attendez. Hey, ce sera des stress qui vont envoyer les gens à la mort.
Pour les directeurs des ressources humaines de la Générale des Carrières et de Mines, M. Ekuchu, pense, vu le nombre pléthorique dont la plupart des agents vieillissants avec une production faible, la Générale des Carrières et des Mines est obligée d'assainir le milieu.
Alors qu'avant ceux-ci qui vont partir le 1er janvier, il y a bien d'agents chez Camille partis en pension, bien d'agents chez Camille décédés dont la saison attend donc le décompte final, bien d'agents chez Camille sortis qui attendent le décompte final depuis 5, 6, 7 ans, 10 ans sans un salaire d'attente. Ils sont partis demain, il n'y a pas eu un plan de financement de leur retraite. Leurs prédécesseurs sont partis sans un salaire d'attente. Ici, il y a une disposition du conseil d'administration. Non seulement donc elle paye un salaire d'attente à ceux qui vont partir, elle doit engager des personnes qu'elle doit payer pour élever, donc améliorer sa production.
La puissante générale des carrières et des mines qui a fait la fierté du Congo démocratique en produisant 450 000 tonnes de cuivre est aujourd'hui considérée comme un éléphant abattu où les décideurs trouvent leur compte dans les contrats et la vente des gisements. Lubumbashi, Narval Mabila, pour la Voix de l'Amérique.
En Tunisie, Habib Essid est depuis hier le nouveau Premier ministre. Ancien ministre de l'Intérieur pendant la transition et secrétaire d'État à l'environnement sous le régime de Ben Ali, il doit former une équipe capable de redresser le pays dont l'économie a été durement touchée depuis la révolution de 2011. Pour un portrait du chef du gouvernement et les défis qui l'attendent, Idriss Fall a joint notre confrère Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
C'est Habib Essid, un cadre de l'État pendant des décennies. Il est âgé de 64 ans, donc il a fait sa carrière dans les rouages de l'État tunisien. La plus récente de ses fonctions, il était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Béjira et de Sepsi en 2011, c'est-à-dire sous la première transition. Donc Béjira et de Sepsi n'a fait que rappeler l'un de ses fidèles aujourd'hui, lorsque Nida Tounes et Béjira El-Sepsi lui-même ont été élus aux hautes sphères de l'État.
Et quels seront ses premiers défis d'abord?
Comme tout le monde le sait, la Tunisie est face à une double crise sécuritaire et économique. D'une part, il y a un environnement régional très instable avec cette Libye juste à côté qui est enflammée et cette Syrie où l'État islamique fait des ravages et où la Tunisie dispose de près de 2000 jeunes qui sont dans les rangs de Daesh, donc il y a un défi sécuritaire énorme. Secondo, il y a le défi économique, ces problèmes de pauvreté, de marginalisation, de chômage, qui ont été à l'origine de la révolution, restent toujours des séquelles dans le tissu socio-économique tunisien, et auquel le futur chef de gouvernement doit faire face.
Quant à la formation du gouvernement, est-ce qu'il va tendre la main à Ennahda ou bien?
Au fait, le choix même de Habib Essid relève d'une conviction chez Béjira et de Sepsi, chez Nida Tounes, que rien ne peut se passer sans un consensus national. En effet, le choix de Essid a été parrainé, entre guillemets, ou avalisé par Ennahda, qui se sont vite empressés de dire qu'ils vont soutenir le prochain gouvernement et qu'ils examineront éventuellement la possibilité d'y participer. Donc, Nida Tounes a cherché à ce que son prochain gouvernement soit entouré d'un consensus national pour pouvoir relever ces grands défis qu'attendent la Tunisie.
Notre confrère Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
Nouveau numéro de Washington Forum, bonne année 2015 à tous. Nous ferons le point sur le virus Ebola un an après son apparition en Guinée. La menace est-elle écartée? La mobilisation internationale est-elle suffisante? Nous en débattrons. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook. Et à jeudi, 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Boko Haram sème la psychose parmi les populations dans l'extrême sud-est du Niger, à la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Tous les jours, des centaines de Nigérians traversent la frontière pour trouver refuge au Niger. Idriss Fall a joint Djibrila Malamkala, maire de la commune de Chetimari, dans la région de Diffa.
C'est au Nigeria, mais au Niger quand même, les Boko Haram ne sont pas encore intervenus au Niger pour faire des dégâts. Mais compte tenu de la proximité, nous, en face de nous, c'est le village de Damascus, Nigeria. Quand il y a eu des attaques là-bas, il y a beaucoup de gens qui ont fui vers le Niger.
Et il y a combien de réfugiés venus du Nigeria?
Bon, moi, je vais vous donner une estimation, parce qu'il y a le service de l'État civil et des réfugiés qui avait fait un recensement. Je sais que ce n'est pas exhaustif. Ce qui est sûr, tous les jours, il y a des centaines qui viennent au Niger pour être protégés. Maintenant, je suis en voyage, je ne suis pas à Bifame et à Chetimari, je suis à Zender. Mais j'étais estimé, à mon départ, j'étais estimé environ à 4000 dans la commune de Chetimari. Ils sont accueillis ou parmi une structure de l'État ou dans des familles d'accueil. Là où ils sont là, c'est à peine à 14 km de la frontière. Donc, ils peuvent s'infiltrer pour venir faire des dégâts. Mais pour éviter ça, vraiment le gouvernement a pris des dispositions, supervisées même par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Un site a été créé pour les héberger à peu près à 50 km au nord de la commune, 50 km à peu près de la frontière entre nous et le Nigeria. Là, il y a eu des abris avec le concours des humanitaires des Nations Unies, du système des Nations Unies.
Au niveau des populations du Niger, comment les gens vivent tout cela?
Vraiment, c'est la même culture, tous sont des parents, c'est la rivière qui nous sépare, on a les mêmes principes. Mais il y a une certaine psychose au niveau de la population. La population a un peu peur, ce qui est arrivé là-bas, pour que ça arrive chez nous. Mais là aussi, le gouvernement a pris des dispositions, le gouvernement nigérien a pris des dispositions, des missions de sensibilisation. On veut surtout la contribution de la population. Quand il y a des personnes suspectes, qu'il y a des suspicions, ils doivent informer les autorités. C'est quoi? Informer le chef de village, le chef de canton, le maire, le préfet, le gouverneur. Vraiment des informations, tout juste pour assurer leur protection.
Est-ce qu'il y a un renforcement des mesures de sécurité à la frontière?
Ah oui, c'est qui est sûr, il y a c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui est venu superviser même cette situation. Le gouvernement a pris ça au sérieux et il y a des postes de contrôle avancés. Et là où il y a les réfugiés, il y a la garde nationale et vraiment il y a l'ensemble des forces de sécurité pour assurer leur sécurité.
Djibrila Malam Kala est maire de la commune de Chetimari dans la région de Diffa au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et on termine en musique. Ce soir, on écoute Wizkid, Show You The Money.
Are you gonna dance you if I show you my money? Are you gonna dance you if I show you the way? Are you gonna dance you if I show you my pockets, baby? Are you gonna dance you if I show you my wallet? I will show you the money, baby, dance from you, baby, move from you, don't go from you. I will show you the money, baby, dance from you, show me your body, don't go from you. African, African, African. An African baby, ooh yeah. See, African, 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 African baby. I don't, yeah. The money too much, I'm dashing. Are you feeling my singing? Like whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Lagos to Dubai, Abuja to Missouri, go back to Mumbai. Now is the music that want to dance to. Are you gonna dance you if I show you my money? Are you gonna dance you if I show you the way? Are you gonna dance you if I show you my pockets, baby? Are you gonna dance you if I show you my wallet? I will show you the money, baby, dance from you, baby, move from you, don't go from you. I will show you the money, I will, baby, dance from you, show me your body, don't go. Take your love for granted. Baby, baby, fire, go, Joe. Baby, you and I just, they go. Don't let bad man stop our flow. Baby, make we just, they go. The money too much, I'm dashing. Are you feeling my singing? Hide whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Lagos to Dubai. Abuja to Missouri.
Et avant de partir, signalons que les républicains de la Chambre des représentants ici aux États-Unis ont réélu John Boehner comme président de la Chambre basse, le Speaker of the House. C'est la fin de cette édition, Morgane.
Merci à toute la rédaction de nous avoir aidé à préparer cette émission.
À la présentation chez Robin Dorcil et Morgane Guériac. Et l'édition a été mise en onde par
Lionel Gaïma,
accompagné de Misha Dubinsky à la console. Show me your body, don't go for you. I will show you the money, baby, dance from you, baby, move from you. Don't
show me about you. Don't go for new.